taxis de Nouméa ont repris du service aujourd'hui. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.
Radio G.
Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Oui, bonsoir. Voilà, on prend le direct à la volée puisque nous étions déjà en train de discuter avec Bruno, parrain d'émission mais également animateur de Dans mon tiroir qui sera l'émission suivante. Et Topette, ce soir à la chance puisque condition un petit peu exceptionnelle aujourd'hui sur Angers, d'accueillir deux de tes chroniqueurs à distance. Bruno, bonsoir.
Oui, on va avoir des envoyés spéciaux, ils sont sur le tracé de la flamme, donc voilà, on les aura tout à l'heure en fin d'émission pour savoir où est la flamme, comment ça se passe, un peu l'ambiance.
Au cours de l'émission même, et Raphaël et Olivier qui sont peut-être pas en train de nous entendre, je sais pas s'ils nous écoutent actuellement, mais on les aura autour de 18h30 pour prendre un peu la température de la flamme, si on peut dire. Eux, ils n'ont pas eu la flemme. Et d'ailleurs, puisque on en parle...
De la flemme?
Non, de la flemme, non. Nolwenn est actuellement pas là, puisqu'elle est sur place, elle aussi, pour nous préparer un petit reportage qu'elle pourra nous retranscrire demain. Sans transition, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Les mobilités, on en parle avec Circule Autrement autour de 18h30 et une précisément. On parle de quoi ce soir?
Ce soir, on parle des coursiers à vélo.
Les coursiers à vélo, tout simplement, voilà. Donc, c'est les petits Uber, tout ça.
Voilà, les coursiers à vélo. Je sais pas si la flamme fait un peu de vélo, mais un coursier à vélo aurait pu l'avoir avec lui un peu.
Ah, Nolwenn nous fera un petit débriefing. Peut-être que ça s'est produit. La flashette aussi avec toi, Angelina. Bonsoir, Angelina.
Bonsoir.
Ouais, on parle de quoi dans la flashette ce soir? Qu'est-ce qui nous fait croustiller sur l'émission d'hier?
Beaucoup de toi, Pierre Benoît, beaucoup, beaucoup.
Ah bah ça promet d'être forcément de bonne qualité, j'espère. Topette, c'est parti, alors émission tout en best-of ce soir. Voilà, on va revivre ensemble les meilleurs moments du début de la saison. C'est parti pour ce mardi.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Et puisque Nolwenn n'est pas avec nous pour faire le flash, Mathéo reprend les bonnes vieilles habitudes et nous présente les actualités ici à Angers. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous.
Alors malheureusement ma feuille n'est pas partie à l'impression, donc je vais te laisser faire les titres si tu le veux bien.
Eh bien, on commence par le délibéré concernant le procès des balcons effondrés. En automne 2023, le procès en appel avait lieu concernant l'effondrement d'un balcon d'une résidence angevine le 15 octobre 2016. Trois personnes avaient par le passé été condamnées pour homicide et blessures involontaires en 2022 dans un procès initial qui avait relaxé le conducteur des travaux et l'architecte. Ces derniers ont donc été renvoyés devant la justice du 25 septembre au 5 octobre 2023. 10 jours intenses qui ont donc conduit à un délibéré rendu aujourd'hui, le 28 mai. L'architecte Frédéric Roland écope d'une peine de 3 ans de prison assortie d'un sursis et d'une peine de 30 000 euros d'amende. Éric Morand, le conducteur des travaux, est aussi condamné à de la prison, 2 ans assortie d'un an de sursis également. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il devra verser 1500 euros d'amende pour blessures involontaires, des peines équivalentes à celles demandées par l'avocat général Thierry Philippot en octobre dernier. Et puis le verdict est tombé aussi concernant les possibles indemnités indues perçues par Christophe Béchu. Le 15 mai dernier, la conseillère municipale d'opposition Sylvia Camara-Tombini saisissait le préfet quant à des indemnités perçues par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers. Lui qui siège toujours au conseil municipal de la ville faisait donc face à une opposition qui parlait de versement indu, preuve retenue, le montant des indemnités correspondant à une présence totale à toutes les séances du conseil municipal, un chiffre total de 37 074 euros pour seulement 5 séances sur 20. L'actuel maire d'Angers, Jean-Marc Verchère, avait défendu Béchu, stipulant que son rôle ne se limitait pas à des présences physiques aux réunions. Des fonctions de premier adjoint non respectées, pas pour le préfet qui a rendu son verdict aujourd'hui. Après contrôle des services de la préfecture, Philippe Chopin a déclaré n'avoir relevé aucune irrégularité. Face à cette finalité amère et le silence du ministre, Sylvia Camara-Tombini a déclaré préférer insister sur le côté moral de la chose, s'appuyant sur le questionnement de bon nombre d'Angevins. Et puis les agents de la ville d'Angers sont en grève, un manque clair de reconnaissance, c'est ce que déplorent ces agents territoriaux de la ville d'Angers. Ce vendredi, l'intersyndicale a adressé une lettre ouverte au maire d'Angers. Ils demandent une revalorisation de leur salaire à hauteur de 150 euros net par mois. À la suite de ce préavis, une rencontre a eu lieu lieu entre les représentants de l'intersyndicale le 6 mai dernier. Résultat, aucune augmentation excepté pour les agents de catégorie C. Problème, personne ne sait aujourd'hui qui serait concerné, des revendications qui restent donc les mêmes. L'intersyndicale dénonce en plus un manque de cohérence au niveau du budget, la cerise sur le gâteau selon eux, l'organisation du passage de la flamme olympique, c'est ce que nous explique Emmanuel Olivier, membre de la CFDT.
C'est pas une manifestation contre les JO, mais la ville d'Angers n'est pas un site olympique. On ne voit pas la plus-value en termes d'opération de com, par contre en termes de dépenses, ce sera un poste important au moment où on nous affirme que les caisses sont vides.
Le préfet a annulé la manifestation prévue symboliquement ce mardi, jour du passage de la flamme. Et puis demain sera un mercredi plutôt triste. Quelques gouttes ont partagé notre journée, mais elles sont ridicules par rapport à celles de demain. Un temps gris, couvert, ponctué d'averses conséquentes durant toute la journée. Les températures iront de 14 à 17 degrés. Et puis côté trafic, vous le savez, aujourd'hui c'est le passage de la flamme olympique sur Angers, donc le trafic est fortement impacté. Le centre-ville n'est pas accessible en voiture. La circulation en périphérie est donc fortement altérée.
Merci beaucoup Mathéo pour ce flash info totalement voilà, c'est le dernier, je pense que ce sera le dernier de Mathéo, ce sera fortement possible. On va y aller du côté de la flamme olympique avec Raphaël et Olivier qui sont sur place de l'équipe de Dans mon tiroir, l'émission suivante après Topette le mardi en semaine impair. Mais avant tout ça, replongeons-nous dans les débuts de la saison avec Frédéric,
l'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Frédéric Paya, alors avec ta femme Sabrina, tu es propriétaire, vous êtes propriétaire du château de Mortagne-sur-Sèvre. Voilà, ça fait, ça en claque vraiment. C'est du 14e siècle. Il était laissé à l'abandon depuis quelques temps, ces dernières années. Vous l'avez acheté, je crois, 2018-2019 à
2019.
Peu près.
Voilà. 2019 euros, c'est pas cher, hein.
Non, c'est l'année, on parle de l'année.
Okay.
L'idée c'était d'ouvrir des chambres d'hôtes, mais en attendant, visites et des événements. Alors, évidemment, il y a eu Covid-19 entre temps, puisque 2019, 2020, 2021, c'est pas les meilleures années qu'on a connues récemment pour.
Il y avait beaucoup de choses à faire, donc on a pu s'adapter.
Voilà. Alors, comme on est en radio, Frédéric, je te propose de nous faire une petite balade audio pour nous donner à voir un petit peu à quoi ressemble ce château à Mortagne-sur-Sèvre, s'il te plaît. Il y a des tours, il y a des...
Alors, on parlait tout à l'heure de clones, eh bien ça tombe bien parce que là, c'est il n'y a pas du tout de clones au site médiéval du château de Mortagne. C'est la seule tour comme ça en France. Là, c'est la tour à éperon qui date à peu près du 14e, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a d'autres éléments qui sont plus du 12e sur le site. Et donc on explique pourquoi c'est la seule tour comme ça en France, d'où elle vient, quelles sont ses origines. On a bâti un peu la visite sur le style du livre des pourquoi de Philippe Vandel, pour ceux qui connaissent. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait pas une visite historique, c'est une visite touristique que tout le monde accessible à tout le monde. En fait, le but était vraiment d'intéresser tout le monde, les plus jeunes comme les adultes, et pas seulement les fans d'histoire et de patrimoine. Donc, on explique donc pourquoi cette tour est présente, d'où elle vient, quelles sont ses origines. Là, ensuite, on a la tour du trésor de l'autre côté du site. Quel était le trésor? Donc ça intrigue beaucoup. Le manoir qu'il a implanté là et pourquoi. Ensuite, on explique pourquoi il a conçu un téléphérique à farine, à quoi ça lui a servi et à quoi il servait. On fait découvrir les seuls remparts qui restent de Mortagne-sur-Sèvre, les remparts médiévaux, et donc qu'on est en train en plus d'essayer de remettre en valeur et de restaurer. Donc là, c'est un travail colossal. Le début a été surtout axé sur le défrichage, oui, parce qu'il y avait énormément de travail là-dessus.
Et alors, tu dis une tour à éperon. Qu'est-ce que c'est au juste une tour à éperon? Parce que moi, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Hein. Le château, c'est une grosse tour, c'est ça? Ça veut dire ça, en fait?
Non, c'est qu'en fait, elle a une particularité de structure qu'on explique. Enfin, il vaut mieux effectivement être sur le site ou avoir vu à quoi ça ressemblait. C'est assez difficile d'expliquer. C'est un mélange de structure de contrefort et donc l'éperon, en fait, c'est une sorte d'appendice rocheux.
Ah oui, un éperon rocheux, d'accord.
Voilà.
Je vois, je saisis. Oui, tu l'as dit aussi, il y a des éléments du 12e siècle. Alors souvent, si on fait un petit point historique, il y avait un château à mottes en bois qui a ensuite été remplacé par des châteaux en pierre. Est-ce que c'est le cas aussi pour celui-là?
Pas du tout. Les éléments du 12e sont surtout sur la tour du trésor, sur les fondements de la construction de la tour du trésor.
Alors, il avait quelle fonction, ce château? Est-ce qu'il a servi à livrer des, à faire, avoir des garnisons de chevaliers qui allaient ensuite livrer bataille au cœur du Poitou ou des Vosges?
C'est ce qu'on explique. Il a une histoire assez chaotique parce qu'il a traversé les siècles. C'est d'ailleurs le titre de la visite, à travers les siècles. Et on raconte l'épopée de ce site qui avait une sorte d'analogie avec la cité de Carcassonne. C'est-à-dire que c'est une cité complètement avec une enceinte complètement fermée, avec deux portes au sud et au nord. Et donc l'enceinte était avec des murs très très hauts. Les remparts, pour ceux qui sont sur notre site, sont à 18-19 mètres. Ah oui, c'est faut quand même, on est assez haut et du coup on explique tout ça, comment a traversé les siècles ce site, et on raconte aussi l'histoire des personnages qui sont venus sur le site.
Ah, est-ce qu'on peut en avoir un nom ou pas, ou ça reste aussi confidentiel?
Non, alors on raconte l'histoire très très particulière de Yolande de La Haye, qui a été une des personnes assez ou en couleur du site, qui a une histoire très 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 particulière.
En gros, ce château, donc il y a Mortagne-sur-Sèvre, hein, c'est vraiment aux confins de quatre départements, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Deux-Sèvres.
Les Deux-Sèvres.
Ouais. C'est vraiment pile poil entre les
à
la jonction.
On touche tout le monde, mais on est dans le 85.
Voilà, donc c'est un château qui a une importance capitale pour le développement de la ville de Mortagne-sur-Sèvre, j'imagine. Et pourtant, il était à l'abandon quand vous l'avez racheté avec Sabrina. Comment ça se fait? C'est quoi son histoire après tout ça, là? Après, une fois que le Moyen Âge est passé, qu'est-il devenu de ce château?
Ben c'est les vestiges des remparts sont peu à peu tombés, d'autres ont été démolis, les pierres ont resservi pour des bâtiments, et à un moment, je donne pas l'époque parce que c'est aussi un des éléments de la visite, quelqu'un a construit un manoir sur ce site, et on raconte son histoire, parce que là aussi, en plus de bâtir un manoir, il a décidé de s'en servir pour exercer une activité professionnelle, et il a construit un téléphérique à farine.
Et dans l'histoire très très récente, hein, vraiment il y a 5 ou 6 ans, du coup, il avait quelle place dans le village, dans la petite ville? Il était vraiment délaissé totalement? Les gens avaient un regard dessus, ou les habitants?
Alors depuis qu'il a été construit, il a toujours été habité par un propriétaire privé. Successivement, il a été habité depuis plusieurs décennies. Et là, il était la propriété d'un médecin local qui ne souhaitait pas entretenir le domaine. Il préférait habiter le manoir, mais ne s'occupait pas du site médiéval avec les tours, les remparts et toutes les surfaces occupées. Et donc nous, on avait choisi de faire différemment. On préférait faire découvrir le site.
Une toute petite question de Bruno.
Bah, il parle depuis tout à l'heure de téléphérique à farine, mais je vois pas trop ce que ça peut être en fait. Un téléphérique à farine.
Intrigant
quand même.
Intrigant.
Il faut faire du ski pour la farine.
Non, c'est qu'en fait, on était relié à un moulin en bas. On est en fait sur les coteaux de la Sèvre, dans la vallée de la Sèvre, et ça reliait le site du château à la Sèvre, au moulin qui était en bas.
Un moulin en haut. D'accord, ok.
Non, un moulin en bas, il a dit. On le disait tout à l'heure, alors maintenant on voit un petit peu à quoi sert. Enfin, le château, on le voit un petit peu plus. Il y a une grosse tour, il y en a une un peu plus petite. Il y a un manoir aussi, il y a un éperon du coup. Donc on visualise bien. En plus, il y a la Sèvre, hein, qui passe vraiment au pied du château, je crois, ou quasiment pas loin.
On est au pied du coteau du site médiéval, ouais.
Alors, ce château, pourquoi l'avoir acheté? C'est quand même pas la chose la plus simple à faire, d'acheter un château, Frédéric.
C'est pas le choix que beaucoup feraient. Bon, pour la petite histoire, j'ai toujours dit entre 15 et 20 ans, un jour j'achèterai un château. Donc bah voilà, c'est fait. Alors effectivement, quand on achète un bien comme ça, il faut l'acheter, mais en fait après c'est surtout l'entretien, la destination qu'on lui fait, et puis le faire grandir, le faire évoluer. Il a traversé des siècles, il faut lui en faire traverser aussi un peu plus une décennie, avec une orientation peut-être un peu différente de ce qu'il a vécu, mais aussi intéressante.
Est-ce que vous savez, avec Sabrina, l'antépénultième propriétaire que vous êtes, le combientième? J'essaie de...
On doit être à... Alors c'est vrai qu'on l'a fait, de mémoire comme ça, on doit être à 6 ou 7, 8.
Ah oui, pas tant que ça en fait. Ah oui, d'accord. Bon, une belle lignée du coup ensuite qui s'ouvre désormais pour ce château. Le projet à la base c'était quoi? C'était les chambres d'hôtes en fait.
Le projet était basé sur 4 ou 5 pôles. Il y avait les chambres d'hôtes, il y avait des réceptions, mariages, séminaires d'entreprise, et puis on avait la visite touristique. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, le corona est passé par là, donc on s'est adapté. Et en fait, maintenant, on fait le programme dans le désordre. Donc, on a fait la visite touristique parce qu'on avait le temps. On a fait des recherches scientifiques dessus et du coup, en fait, on a créé cette visite touristique à la suite de nos recherches.
Alors scientifique, carrément, même pas historique.
En fait, on s'est rendu compte que les historiens, pour beaucoup, étaient un peu des romanciers plutôt. Et moi, je suis maths physique à la base. Et les romans, j'aime bien les lire, mais quand je raconte quelque chose, j'aime bien que ce soit certifié. Donc, on a vraiment cherché de manière scientifique. Après, on a peut-être mis plus de temps qu'un historien, mais ce qu'on raconte, c'est vrai.
Alors, du coup, les chambres d'hôtes actuellement, on peut ou pas dormir dans le château? C'est pas encore.
On peut pas dormir dans les chambres d'hôtes telles qu'on va les créer, puisque on n'a pas encore créé ce qu'on voulait. Mais on a fait d'autres choses. C'est-à-dire que cette année, on a fait nos premiers tests d'animation médiévale. Alors nous, il y a 4-5 mois, on savait pas ce que c'était qu'une animation médiévale. On savait pas qu'il y avait le week-end des gens qui aimaient se taper dessus avec des épées. Donc ça a été une belle surprise et puis une belle réussite populaire. Donc ce qui était le quatrième point est devenu le deuxième. Donc les chambres d'hôtes seront peut-être le troisième ou le cinquième. On s'adapte.
Un jour, ça viendra. Des chambres d'hôtes thématiques, j'ai l'impression, non? Elles seront peut-être un petit
tout
peu...
Tout à fait. Alors je vais vous, comme vous vouliez un secret, je vous en livrerai un. Il y aura la chambre du chevalier.
Intéressant. Dans un autre château plus loin dans le centre de la France, la chambre du chevalier est tentée. Acheter un château, c'était une envie que t'avais depuis très longtemps. T'es amoureux des vieilles pierres aussi, d'histoire d'une manière générale.
Même
si t'aimes pas les romans d'histoire, on a compris.
J'aime bien les romans, mais en fait, il faut savoir quand c'est un roman et quand c'est une histoire authentique. C'est juste ça. Après, je suis adepte de tous les romans, mais là, pour le coup, quand je raconte une visite touristique avec des éléments certifiés, j'aime bien que ce soit authentique.
Et du coup, tu étais passionné d'histoire en plus du fait de vouloir un château. Tu voulais aussi le.
Alors, j'ai toujours aimé l'histoire en termes d'histoire, de tout ce qui s'est passé, le passé et les différentes époques les événements nous ont fait vivre, enfin surtout nos ancêtres. Mais je suis plus adepte de tout ce qui est patrimoine et bâtiment. C'est-à-dire que à la base, je me serais bien lancé dans l'architecture. Voilà.
Mélodie, toi qui rêves de la vie de château, on n'en doute pas. qu'est-ce que ça t'évoque, ça, l'idée de vivre dans un château?
Moi, la première chose que ça m'évoque au quotidien quand je pense à l'idée de vivre dans un château, c'est
Où sont les toilettes?
Non, c'est vraiment le même genre de remarque. C'est vraiment genre. Le ménage, c'est tellement grand. Comment tu te débrouilles?
Alors, là, c'est un château quand même à taille humaine. On n'est pas sur un grand château. On est surtout sur des vestiges médiévaux qu'on va remettre, effectivement, qu'on va pouvoir pratiquer, rendre praticable. Mais, le manoir est pas un manoir de 1000 mètres carrés. On n'est pas du tout dans un château typé Renaissance, par exemple.
Mais là, en l'occurrence, à écouter l'émission aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très intrigantes et beaucoup de mystères dans ce qui est décrit. Et du coup, c'est vrai que ça attise vraiment la curiosité. Moi, j'ai envie d'y aller. Voilà, après, on y va tout à l'heure.
Et les réservations se font avec Frédéric, tout simplement, juste après l'émission, si tu veux. Beaucoup de contraintes, du coup. Alors, il y a le ménage. Moi, je pensais aussi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'assainissement. J'ai l'impression que c'est le propre des châteaux. Et ça, c'est une grosse contrainte. Il y en a peut-être d'autres.
Alors, c'est la contrainte de beaucoup de bâtiments qui ont une grande surface, soit en termes de terrain, soit en termes de bâtiments, parce qu'en fait, ça nécessite de développer des réseaux conséquents. Et c'est pas la maison de 100 mètres carrés que vous reliez tranquillement avec une petite tranchée de 8-9 mètres. Donc là, tout est démesuré et on se heurte souvent à des défis un peu techniques. Donc là, on est en train de les résoudre et on a bien avancé.
En plus, il doit être classé monument historique ou référencé, donc il doit y avoir des contraintes.
On n'est pas classé, mais en fait, on est dans le périmètre de l'église qui elle est classée. Donc, c'est comme si on était. C'est un peu pareil.
Est-ce qu'il est hanté, ce château?
C'est
dans la visite.
Voilà.
Voilà. Bon, Mélodie, tu nous raconteras tout ça. tu nous donneras la réponse. Topette 101.5 FM. Dans quelques instants, on sera avec donc Raphaël et Olivier. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que du foin dans les granges, ça commence ce week-end, le 31 mai et le 1er juin. On aura par exemple Aymeric Meny, Riven, le petit bal éphémère et Polydor, feat Bachir Roumi. Et tout ça, on vous renvoie vers le podcast qu'on avait fait avec Manon, Jérôme et puis Benoît, tout simplement. Topette, on continue en musique avec Under the Influence de Chris Brown. Ça, tu pourras le prendre si tu vends, Julina.
On it, honey bands make it rain on it. Tied up, put a chain on it. Make you tattoo my name on it. Oh, make you cry like a baby. Yo, let's go, bro, and make a video. Yeah, make you cry like a baby. Yo, let's go.
Under the Influence, Chris Brown. J'aurais pas la deuxième fois non plus, elle passe pas décidément, l'accent c'est pas ça. Bruno, il me semble qu'on peut appeler Raphaël
oui.
Et Olivier.
Vas-y, on va tenter donc de les appeler. Ils sont tous les deux actuellement sur je pense qu'ils sont du côté de la place du ralliement ou peut-être on sait pas où ils sont exactement, mais ils vont nous dire.
On va passer un call comme on dit.
C'est ça, voilà, ils vont nous dire, ils sont sur le passage de la flamme olympique et on va voir
ça. Raphaël est avec nous.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Raphaël. Bonsoir. On laisse juste Bruno s'emparer d'un casque. Oui. Comment ça se passe ?
Eh bien, ça se passe bien. On est place du ralliement. Il y a énormément de monde. Et là, on attend avec impatience la flamme qui va arriver.
Oui, un monde de fous le long de la ligne de tramway au ralliement.
Je ne sais pas si vous entendez, il y a de la musique, il y a des animations.
Ouais.
Il y a l'école Jean-Jacques Rousseau qui fait un spectacle là, place du ralliement, en attendant, et puis pour accompagner l'arrivée de la flamme.
Mais
c'est assez festif, c'est assez joyeux.
Est-ce que tout est booké ? Parce qu'apparemment, il y avait des jauges et tout ça, on empêchait les gens de venir et tout.
Alors, nous, on a réussi à accéder à la.
La jauge, je crois qu'elle est juste place La Rochefoucauld, la jauge. C'est une jauge de 8000 personnes, mais. Au ralliement, là, c'est abordable, hein, franchement.
D'accord. Et qui va donc tenir la flamme là où vous allez les avoir hein?
Donc là, on va avoir un relais. Alors, à 18h52, va arriver Marie-Daphné Gaillard, qui est une influenceuse connue sur Angers.
Angers ça bouge, précisément.
Angers ça bouge, exactement. La fondatrice de Angers ça bouge et qui passera le relais à Marie Rivraud à 18h52, qui est une def perchiste. En fait, la Madame Rivraud, elle est handicapée, là, elle est sourde. Et donc, le def perchiste, c'est la sur la perche pour les personnes malentendantes. Quoi.
D'accord. Et ensuite, il y a d'autres noms ?
Alors, d'autres noms, oui, on va avoir par la suite qui c'est qui a connu ? Cynthia Catrouillet.
Oui.
Cynthia Catrouillet, qui est championne d'Europe de tennis de table.
D'accord. OK.
Et tout à l'heure, à 18h50, Raphaël, je crois qu'on pourra être avec une des porteuses de la flamme, c'est ça, en interview?
Voilà, alors on va essayer d'avoir Marine Daphné en direct pour qu'elle témoigne de ce qu'elle a vécu, du coup, justement, juste après son relais. Donc je pense qu'elle va être très émue, mais on va essayer de la voir.
Bon, et ben on vous reprend tout à l'heure à 18h50, alors, sans aucun souci.
Juste une petite annotation de quelqu'un dans le public, est-ce qu'on peut faire intervenir Myriam?
Eh ben, si tu veux, oui.
Oui. Alors Myriam, du coup, vous êtes venue pour voir l'émission, enfin la flamme. Alors pourquoi c'était si important pour vous d'être en direct ici?
Alors c'est un événement avant tout national et maintenant ça devient local. Donc pour nous, les Angevins et Angevines, ça nous permet aussi de vivre ce moment historique et aussi de se rendre compte qu'il se passe quelque chose en France, parce que c'est vrai que ici on le sent pas vraiment, mais avec ce genre d'événement et puis on est complètement dedans et ça fait plaisir.
Ah, c'est quoi vos impressions là à chaud là de voir tout ce monde?
Pardon?
De voir tout ce monde, c'est quoi vos réactions à chaud?
Bah écoutez, on sent que la ville est plus vivante et ça, ça fait plaisir aussi. Il y a beaucoup de monde, c'est assez festif, c'est joyeux et puis voilà, il faut de plus en plus ce genre d'événement. En tout cas, nous les locaux, on est complètement contents.
Ok, merci Myriam.
Merci, bon courage.
Merci Myriam, merci Raphaël, merci Olivier aussi. On vous reprend tout à l'heure du coup à 18h50 si vous le voulez bien.
Exactement, en direct pour le relais.
Ça marche. À tout à l'heure. Et ça continuera aussi du coup dans l'émission qui est juste après, dans mon tiroir avec toi Bruno. Alors j'imagine qu'en ce moment ça doit circuler assez mal sur Angers. En tout cas, c'est ce que nous annonçait Mathéo dans son flash info. Et oui, il comprend Nicolas qu'on va parler de vélo, parce que j'imagine bien qu'il y a vélo aussi. On est à bicyclette en ce moment sur Angers, on est plutôt avantagé. Voilà, voici l'heure que voit ça. Voilà, circule autrement. C'est aussi pour Angelina, c'est juste pour alimenter la fléchette qui sera aussi tout à l'heure.
Marre de l'auto ? Circule autrement avec Nico dans Topette.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Pierre Benoît. Bonsoir à tous et bienvenue dans Circule autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène urbain qui s'est répandu à travers le monde, les coursiers à vélo. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de ces messagers modernes qui sillonnent nos villes à toute vitesse. L'histoire des coursiers à vélo remonte à la fin du 19e siècle avec les premiers services de livraison rapide dans les grandes villes comme New York ou Londres. À l'époque, les vélos étaient le moyen le plus rapide de se déplacés en ville, les coursiers à vélo sont devenus essentiels pour la livraison de documents importants, surtout avant l'essor des technologies de communication modernes. Le métier de coursier à vélo s'est fait connaître du grand public dans les années 80, notamment grâce à la culture des vélos fixies adoptés par les jeunes livreurs. Des vélos de course monovitesse, sans roue libre et sans frein, au guidon étroit, nécessitant une maîtrise parfaite du pédalage à la fois musclé et souple, pour se faufiler au travers de la jungle urbaine new-yorkaise. Cette communauté a créé un mouvement et l'icône du coursier à vélo tel qu'on le connaît avec son style de hipster. Ils étaient non seulement des travailleurs essentiels, mais aussi des figures de style. Ce métier est apparu en France plus tardivement, car il nécessite des centres-villes condensés et compacts. Bien entendu, c'est à Paris qu'il s'est développé le premier, puis sur Angers dans les années 2010. Les premiers coursiers indépendants ont tenté l'aventure inspirée par l'influence new-yorkaise. Aujourd'hui, notre ville rayonne autour du vélo et nous sommes riches de livreurs à vélo. Avec l'avènement des technologies de géolocalisation, le métier de coursier à vélo a été transformé. Des applications comme Uber Eats ou Deliveroo ont révolutionné le secteur. Pour les coursiers, ces outils ont optimisé les commandes, les trajets et permis une meilleure gestion. Aujourd'hui, les coursiers sur Angers, les plus visibles sont les livreurs de repas. Mais si vous observez bien, vous verrez aussi dans la ville des livreurs de colis comme Cliveo ou des livreurs d'affiches comme Andégave ou encore les frères Toc. En France, les coursiers à vélo se sont imposés comme un élément clé de l'économie urbaine, surtout à Paris, Lyon ou Bordeaux. La pandémie du Covid-19 a accéléré cette tendance avec une augmentation de la demande pour les livraisons à domicile. Au-delà de la simple urgence, un coursier à vélo permet la simplicité et la proximité, hors des grands réseaux logistiques de livraison. Utiliser un coursier à vélo, c'est aller au plus direct, avec un échange et une confiance humaine. Les coursiers à vélo sont devenus bien plus que de simples livreurs. Ils représentent une réponse agile et écologique au défi de la logistique urbaine moderne. Que ce soit à New York, Paris ou Angers, ces messagers sur deux roues continuent à transformer la manière dont nous percevons la mobilité en ville. Ils sont représentants d'une culture saine pour la planète, alliant simplicité et efficacité. Un métier qui fait rêver.
Waouh ! Toujours des odes comme ça à la bicyclette, aux mobilités douces avec toi Nicolas. On se retrouve dans deux semaines normalement, alors la fin de saison est comptée, mais ça y est, c'est signé pour la saison prochaine, on repart avec toi.
Hein. Oui, il paraît que le mercato est ouvert et on sera là l'année prochaine à partir de la rentrée pour plus de circulation autrement.
Il utilise le terme mercato comme si on allait signer un contrat véritablement.
Et Mathéo aussi.
Mathéo qui, figure-toi, au fur et à mesure de tes chroniques Circule Autrement, s'est mis à faire du vélo taf, voilà, grâce au petit vélo électrique de sa maman.
Exactement, merci Nico.
Mais de rien.
Comme quoi ça sert.
Mais j'en suis ravi.
Ça sert Angelina, est-ce
peut-être
que tu
devenir livreur au mérite.
Ah peut-être, est-ce que tu fais du vélo Angelina sur Angers pour te déplacer?
La dernière fois c'était une chute, depuis j'ai arrêté, mais initialement c'était l'idée.
Un vélo silencieux tu veux dire? Chute, superbe,
blague superbe, de TV.
Tu peux le noter, il faut
t'accrocher.
Oui,
bah,
c'est déjà noté. Hein.
Ouais, on est en mode libre antenne. Bon, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, parce que vous n'êtes pas devant la flamme olympique, par exemple, parce que vous avez la flemme, allez, on la refait une nouvelle fois. Voilà de quoi alimenter vos idées avec la chronique. On fait quoi de Bruno?
C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique On fait quoi de Bruno dans Topette.
On fait quoi? C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canapé avec son paquet de chips et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête. Bon, ce soir, c'est le grand soir, la flamme olympique est dans la place de la Rochefoucauld, en tout cas, et ce pour la modique somme de 500 000 euros pour le département, soit moins d'un euro par habitant. Il faut donc relativiser. Mais bon, enfin, ça fait cher l'allumette quand même. Ne boudons donc pas notre plaisir de voir Angers à l'honneur ce soir avec le passage du briquet dans ses rues. Je vous propose, depuis votre canapé, de parcourir l'histoire de la flamme. L'idée remonte au joueuse de Berlin en 1936. Pour ce premier relais, les Allemands décident d'utiliser une torche végétale pour traverser le pays, écolo avant l'heure, donc avec une tige de fenouil, puisque ça a une combustion plus lente. Et le reste des pays avec une torche plus classique, mais ça a failli s'éteindre en Yougoslavie, voyez-vous. Voilà, attention, ça c'est pas possible. En 1948, sur désir de la reine du Royaume-Uni, on a préféré un Apollon à un autre sportif pour allumer la flamme à Londres. Voilà, on comprend pas pourquoi M. Béchu n'a pas désigné Pierre Benoît pour Angers, du coup. En 1956, c'est un étudiant qui, avant que la flamme passe, déjoue la sécurité et court avec une fausse flamme constituée d'un slip enflammé. Voilà. Il l'a remis au maire 15 minutes avant la vraie flamme.
Ça te plaît, ça, comme histoire. Hein.
Ouais, c'était sympa, hein, c'est en Australie. En 68, soit 32 ans après la première flamme, c'est la première femme qui allume le feu. Bon, il était temps quand même. Hein. Alors, on sait qu'à l'origine, les JO n'aimaient pas les femmes en sport. Les temps changent, mais il faut quand même du temps. Pour Montréal, en 1976, c'est plus compliqué. Il faut dire qu'entre Athènes et Ottawa, il y avait 7700 kilomètres. Alors, on utilise alors un stratagème symbolique et moderne. La flamme grecque a envoyé un signal à un satellite qu'il a relayé pour déclencher un laser qui a allumé la torche canadienne. Voilà. C'est pas non plus évident de porter la flamme jusqu'à la vasque. En 84, aux États-Unis, l'escalier était tellement rude que le porteur a eu une crampe à la répétition. On a donc prévu un remplaçant habillé pareil. Voilà, si jamais il y avait une défaillance, mais tout s'est bien passé. En 92, on a trouvé une solution plus rapide. La vasque a été allumée avec une flèche enflammée. Pas de trucage, une vraie flèche, mais d'un métal qui évitait à l'archer en disport de se brûler. Alors le parcours à travers les pays peuvent aussi être originaux, comme en 1996 où la flamme a traversé 875 km à cheval. Pendant 58 heures. En 2000, la torche passe sous l'eau. Il a fallu utiliser une solution chimique qui a mis la flamme à 2000 degrés pendant 40 secondes d'immersion portée par un plongeur. Très original. En 2008, la flamme passe par Paris où des manifestations pro-Tibet ont mis en danger le cortège et on a dû là pour la première fois éteindre à 4 reprises la flamme pour la mettre dans un bus de protection. En 2024, c'est Luc, l'animateur d'Entre les Pages sur Radio G, qui allumera la vasque en hommage à Hervé Bazin qui... Pardon. Ah non, on me signale qu'en fait, il n'est pas disponible. Ah, c'est dommage. Il vous reste quand même la possibilité d'écouter son podcast.
Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette.
Pauvre Luc, tout le temps, Hervé Bazin, tout le temps. En tout cas, je vous remarque qu'il y a un petit peu des parallèles éditoriales entre On fait quoi à ta chronique et puis la flashette d'Angelina qu'on entend.
J'adore, c'est maintenant ma chronique préférée de Topette.
Et ben voilà, c'est une déclaration. La flashette qui a donc, si j'ai bien suivi, une fois allumé la flamme olympique.
La flashette.
Non, ah, c'était la fléchette, pardon. Allez, on retourne en best-of avec Emliada, les bijoux Emliada qui étaient venus, c'était Adeline dans Topette au cours de la saison.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Adeline de Création Emliada, des bijoux donc upcyclés. Alors upcyclés, c'est pas tout à fait recyclé. On donne une nouvelle destination à des déchets, mais c'est pas forcément pour la même utilisation de base. Ouais. Je commence à connaître la définition maintenant avec tous nos invités qui passent. C'est du made in Anjou. Ça reste donc cohérent par rapport à la démarche. Principalement des boucles d'oreilles, principalement pour des jeunes femmes, mais aussi des femmes plus adultes. Peut-être des hommes, ça tu pourras nous dire aussi. Et j'ai vu donc des marque-pages en bois, mais tu vas tout nous expliquer. Adeline, donne-nous un petit peu à voir tes créations. Moi, j'ai pu aller voir sur ton compte Instagram et ton site internet, mais malheureusement, nous sommes à la radio. Donc, si tu peux nous donner quelques éléments visuels pour comprendre un peu à quoi ressemblent tes bijoux.
Alors donc du coup mes bijoux, voilà, c'est du upcycling ou surcyclage en français. Donc c'est bien sûr différent du recyclage, parce que le recyclage, voilà, on détruit pour faire complètement autre chose. Donc il y a un coût énergétique quand même important. Et le surcyclage, donc on garde l'élément et on lui donne de la valeur ajoutée, une autre vie en fait, une autre utilité. Donc mes bijoux, voilà, je récupère et je fais à partir d'éléments, voilà, que je prends. Et l'idée me vient après, et donc ce sont des chutes de bois, voilà, comme on disait, des bouchons de liège que je coupe en rondelles, et ensuite après je mets un décor dessus que je fais avec de la peinture acrylique, des crayons Posca, de la peinture relief et un petit peu de, voilà, de vernis et de paillettes, hein. Et donc du coup il y a aussi des graines de petits marrons, pareil, que je peins, voilà, des verres de lunettes également. Donc les verres de lunettes, en fait, ce sont des calibres qu'il y a sur les montures avant les verres correcteurs. Et tout ça, c'est du plastique jeté par les opticiens, puisqu'ils sont là juste pour maintenir la monture et noter la marque de ces montures. Et donc, ils en font rien. Donc, je récupère, je leur donne une autre vie vraiment complètement différente.
Alors, vu que ta matière est assez incertaine, dans le sens où tu prends ce qu'on te propose, ce que tu trouves, vu que c'est du surcyclage, on va dire en français. Donc, chacun des bijoux, chacune de tes créations est assez unique en son genre. Tu peux pas anticiper à l'avance.
Non, voilà. Donc, surtout sur les verres de lunettes, c'est que des pièces uniques. Parce que la forme, je la retravaille pas, hein, pour essayer aussi de pas faire trop de déchets, parce que je pourrais le redécouper, mais bon, on est sur un peu de déchets de ce que j'utiliserai pas. Donc, je garde vraiment la forme et c'est que des pièces uniques. Je fais jamais le même motif. Après, sur les modèles de liège, c'est plus quelque chose que je peux refaire. Voilà, j'ai quelques collections sur une même thématique, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui diffère, puisque c'est tout est fait à la main, et donc voilà, les petits points que je fais dessus ne sont jamais au même endroit, et puis j'avoue que j'aime pas faire la même chose sinon je m'ennuie.
Alors là on peut pas voir parce que t'as un casque sur les oreilles, mais tu le dis, hein, ta spécialité entre guillemets ce sont les boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que c'est plus plébiscité par les personnes?
Alors en fait les boucles d'oreilles, parce que à la base quand j'étais collégienne, je voulais être joaillière. Et j'ai pas fait du tout l'orientation qui était prévue. Voilà, on m'a pas orientée comme il fallait. Enfin, il y avait pas de débouché apparemment il y a 25 ans. Donc j'ai enfoui ça au fond de moi pendant toutes ces années. Et puis bah c'est revenu. Je voulais toujours créer des boucles d'oreilles, des bijoux. Et donc voilà, c'est la base de mes créations. Mais effectivement, je fais aussi des bagues, des bracelets et des marque-pages en fait pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Parce que voilà, les boucles d'oreilles, ça touche vraiment que les femmes. Mais les marque-pages, ça peut toucher aussi les enfants. Alors, hommes, pour le moment, j'ai pas encore d'idée. Mais voilà, après, ça va dépendre de ce que je vais récupérer aussi. Et puis,
c'est moins la cible, hein, quand même, d'une manière générale.
C'est moins la cible. Voilà,
les
bijoux, c'est plus femme, jeune femme. Voilà, oui.
Voilà, alors on commence à en parler, ton parcours, tu t'affirmes autodidacte, comment est arrivé Emliada dans ta vie, à quel moment tu as raccroché les wagons, entre guillemets, oui, par rapport à ton rêve, ton ambition,
voilà,
quand tu étais plus jeune?
Eh bien en fait, donc j'ai été secrétaire dans l'automobile pendant 17 ans, je suis tombée par hasard dans ce secteur, et au bout d'un moment, j'en ai eu un bon ras-le-bol, et passé par là, le Covid et le confinement. Donc voilà, cette chose qui a fait pas mal de remue-ménage pour beaucoup de gens, et il a fallu faire des cadeaux avec ce qu'on avait sous la main. Et voilà, c'est mon petit frère qui est menuisier de métier, qui a fait des boucles d'oreilles pour sa femme en coupant des rondelles de bois. Et moi, donc voilà, je voulais toujours faire des bijoux, mais acheter et assembler, je voyais pas l'intérêt. Et quand j'ai vu ces boucles d'oreilles, en fait, je me suis dit, ça m'a fait un déclic, et je me suis dit, eh bien en fait, avec ce qu'on a sous la main, on peut faire des créations, bien sûr avec de l'imagination, mais c'est parti de là en fait, faire des bijoux avec des éléments de la nature, parce que voilà, la nature, c'est quelque chose qui me parle et qui m'apaise aussi, et voilà, je voulais, pour la préserver, et ben voilà, créer des choses à partir de ce qu'on avait sous la main pour diriger les gens vers une mode un peu plus responsable.
T'as un petit peu regroupé toutes tes problématiques, tout ce qui t'intéressait,
voilà.
Tout ce qui te questionnait, parle-nous du nom, on va faire une pause musicale dans quelques instants, mais le nom Emliada, alors j'ai l'impression qu'il y a un acronyme de je sais pas quoi, Adeline, peut-être qui est dedans.
Tout à fait, donc en fait EM c'est pour ma première fille Amy, LI c'est pour Lila, ma deuxième fille, AD pour Adeline et DA pour David, mon mari.
Et ben voilà, tout voilà. Qui est dit. Donc M Liada avec 2D donc sur Instagram et sur ton site internet aussi, création M Liada très précisément.
Voilà, on va création-mliada.fr, tout à fait.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Et l'intégralité du podcast avec Adeline est à retrouver bien évidemment. Où ça, Mathéo?
C'est sur le site internet de la radio, bien évidemment, Pierre Bonhomme.
Dans l'onglet émission, et l'émission s'appelle Topette, c'est celle que vous écoutez actuellement. Topette qui passe à la flashette.
Top, 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 top à la flashette.
Piscine, rendez-vous chez le dentiste ou repas chez mamie. Vous n'étiez pas à l'écoute de Topette hier?
Don't worry. La flashette vous récap l'essentiel.
Avec Angelina
ou Franck.
Bonsoir Franck.
Bonsoir Pierre Bonhomme. Et car le fair play est aussi l'une des nombreuses qualités de la flashette, c'est par une petite critique auto-centrée que je débute cette chronique.
Mais puis
il semblerait que si Mathéo peine à maîtriser son alphabet, Franck a quant à lui des difficultés à orthographier correctement le nom des invités de l'émission. Modestie mise de côté et flashette déjà bien trop moquée, tournons-nous vers nos invités d'hier. Sylvain Bertoldi, ou Monsieur Patrimoine, comme a aimé le surnommer Pierre Benoît, était présent, plumeau et balai à la main, avec pour mission le dépoussiérage des archives angevines. L'exposition du RU en cours portait sur l'hygiène à Angers. Un sujet qui nous rappelle vaguement nos débats récurrents sur l'odeur des chaussettes de notre animateur. Comme quoi, il n'est parfois pas nécessaire de consulter les archives pour être confronté aux difficiles conditions d'antan. Le second thème nous a, lui, directement transporté 150 ans en arrière, en 1869 précisément, lors de la première course de vélo angevine.
Mais puis en 69, une course dans la ville.
Époque où notre doyen, Pierre Benoît, n'était encore qu'un enfant de 10 ans, terrorisé à l'idée de retirer ses petits trous. Enfin, Sylvain Bertoldi a fait appel au capital culturel de nos auditeurs en évoquant la place importante qu'occupent déjà les mythiques selfies de notre animateur. Collection que nous pensions jusqu'ici incomptable, mais que monsieur Bertoldi a eu le courage de répertorier.
Sur un total de 252 photographies.
Une collection intéressante, encombrante, qui rend notre équipe très fière. Et comme le dirait le grand chef du patrimoine, une initiative admirable.
Donc c'est très intéressant, mais c'est rare.
Avec une volonté de contribuer indétrônable.
Non pas s'en débarrasser, mais en faire profiter par exemple les archives d'Angers.
Peut-être trop d'ailleurs.
Vous pouvez les détruire.
Notre deuxième invité d'hier soir, Festen, artiste choltaise, a quant à elle offert à Mathéo l'opportunité de nous étaler sa culture. Et par culture, j'entends culture musicale plus précisément. Chance, vous vous en doutez, vivement saisie par notre chroniqueur.
Vous avez parlé de reprise de Metallica, du rock, c'est votre influence la plus forte.
Nirvana, j'ai dit.
Bon, bah, j'ai fait un mauvais parallèle.
Une performance presque aussi rare que l'odeur des chaussettes et les selfies de notre animateur. Une mission qui promet donc dorénavant un changement crucial des poses de l'équipe, passant subitement de l'apprentissage de l'alphabet au visionnage de l'émission phare de Nagui.
Top, 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 top à la flashette. Merci Angelina. Bon, on espère que ça vous plaît. En tout cas, si vous suivez le compte Instagram de Topette, vous avez pu remarquer le petit réel aussi, récap un peu plus sérieux, allons-nous dire, qu'elle réalise Angelina le temps de son stage ici avec la rédaction de l'émission. Récap de la semaine passée. C'est ça, Angelina?
Oui, tout à fait. Des personnes qui sont venues nous inviter.
Voilà, elle s'est inspirée de la grosse affiche rouge qu'il y a juste derrière elle dans le studio. Bruno, décidément, oui. Il prend de plus en plus de place dans l'émission ce soir. Parce que
oh bah c'est ça, c'est agréable.
Il est né avec ses chroniqueurs. On va faire un récap de Radiovision d'un seul mot. Peut-être je lance le sonore ou simplement tu veux dire un mot sur Radiovision?
Ah, t'as le sonore là ici?
Bien sûr.
Bah, écoute, normalement, tout est dit dessus. Et puis on en reparle après si tu veux.
Si tu veux.
Il ne vous reste plus que quelques jours pour voter pour votre chanson préférée de Radiovision. C'est gratuit, il vous suffit de vous rendre sur le site radiovision.fr. Voici les 16 finalistes, à vous de faire gagner votre coup de cœur.
J'aimerais tant pouvoir le faire, ce petit son.
Temps qui passe, de mes vieux camarades de classe, à la récré, je te cache-cache et au football.
Night, after night, I
s'effondrait. Beaucoup,
petite fille heureuse, rêvant de liberté, elle invente une berceuse à ses vieux jouets.
Des alpinistes de carton, confiant dans leur faiblesse, qu'importe le flocon, pourvu qu'il y ait l'Everest.
Regardez en haut, se demander pourquoi.
Tu es surnaturel, et de tes mots magiques, c'est toi qui en sorcelle.
Merci madame, je vais faire le tri. Pas dans le tri, c'est interdit. Alors je jette des boîtes, je jette des boîtes, je jette, je jette.
Je sais ce que vous vous dites, ce gars est un tue l'amour. Je
sais. Un refrain du tout.
Rendez-vous sur le site radiovision.fr pour écouter les chansons et voter pour votre préféré avant le 31 mai. On se retrouve le 15 juin sur cette antenne à 21h pour la finale.
Un sacré programme, Bruno.
Ouais, ça va être super. Et c'est vous pouvez super. Encore voter, donc vous avez quelques jours encore pour voter sur radiovision.fr. On peut appeler nos envoyés spéciaux?
Bien sûr.
Parce que bon, alors pour
click on the button.
On n'aura pas forcément l'interview parce qu'elle passe à 19h en fait. Donc ce sera entre les deux émissions, donc on va voir. Donc on va quand même les appeler maintenant. On va voir.
Allô,
Hello, Rafa.
How are you? Salut.
Alors donc elle passe qu'à 19h, notre consoeur.
Elle a un peu de retard. On vous a annoncé 15 minutes de retard.
Ok, bah c'est pas grave, on l'aura dans l'émission DMT. Est-ce que vous avez tout à l'heure vous me disiez que c'était un pub comme le caravane du Tour de France?
Oui, alors c'est rigolo, il y a une voiture qui passe qui tient la boutique officielle. Et pour mettre l'ambiance, il y a des chauffeurs en fait et puis des personnes qui sont derrière le camion qui mettent l'ambiance en public. Donc on se croirait au Tour de France.
D'accord. Bon, Olivier, tu me ramènes un ou deux de mascottes, alors, du coup.
Oui, ça commence à s'activer, là. Il y a les gendarmes, les flics qui sifflent et tout. Donc,
voilà. Les flics.
Pas tarder.
Les keufs, allez, les gendarmes, les policiers,
t'as les poulets. Les poulets. Il va tous nous les faire.
On embrasse bien évidemment les forces de l'ordre.
Oui, voilà. On va faire en gros les forces de l'ordre. Bon, on se retrouve dans quelques minutes dans DMT,
ouais.
Du coup.
En 4-5 minutes, je pense.
Ok. Et puis, on aura peut-être l'interview.
Carrément.
Ok,
à tout de suite.
Salut.
À tout à l'heure. Ah oui, je pensais qu'on restait avec eux jusqu'à la fin d'émission.
Non, mais non, mais elle n'est pas disponible pour l'instant, donc.
Bah écoute, moi je te propose de passer à table et puis on voit ce qui se passe.
Okay.
Peut-être que d'ici là, la flamme, Marine Daphné sera en train de porter la flamme, la gamelle, à table. Et on s'intéresse aux galettes ce soir.
Un podcast de la gamelle sur Radio G.
Avec Tiffaine Crézé et Thomas Benardo.
Le point technique, c'est quoi? C'est de pas percer le jaune d'œuf. Voilà, ça c'est la catastrophe pour un dimanche soir si on perce le jaune d'œuf.
Bonjour, alors comment on s'appelle?
Augustin.
Alors tout d'abord, est-ce que tu aurais une recette, toi, qui t'évoque quelque chose de spécial, une recette dont tu voudrais nous parler?
J'aime beaucoup cuisiner les galettes. C'est à la fois simple, mais on peut y mettre beaucoup de choses différentes.
Alors, est-ce qu'on est sur l'aventure de la galette ou est-ce qu'on est sur tiens, je me souviens dans le restaurant, j'avais vu cette je vais la refaire.
Non, c'est plutôt l'aventure de la galette. Effectivement, après on s'inspire des gens qui sont bons en général dans beaucoup de domaines et donc effectivement quand c'est le cas, on s'empêche pas de s'inspirer, oui.
Alors, on est dimanche soir, on arrive à l'improviste, Augustin, tac tac, tu nous fais une galette, sur quoi on part?
Alors là, on part sur quoi? Bon, il faut déjà une bonne galette, c'est le principal. Alors ça, souvent, on peut la faire soi-même, c'est meilleur, mais il y a des gens qui le font très très bien. Par exemple, on va, je sais pas, le dimanche matin au marché, on va voir quelqu'un qui fait des galettes, on prend des galettes de bonne taille, c'est préférable, parce que c'est plus sympa après à refermer.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Et après, une fois qu'on a une belle pièce de galette, bah, on la met sur la poêle. Alors c'est important d'avoir une belle galettière aussi quand même.
Ah, on est sur de la galettière, ouais. Complètement. On n'est pas sur de la petite poêle d'étudiant, on est parti sur du matos professionnel.
Alors, on s'entraîne sur de la poêle d'étudiant. Alors, ça demande des années d'entraînement, quand même. Et donc, bah, une fois qu'on a un peu de matériel, qu'on commence à connaître un peu les produits, moi, je conseillerais, par exemple, pour le dimanche soir, il faut quelque chose de réconfortant, parce que c'est dimanche soir.
Et
donc, le dimanche soir, voilà, on a besoin de quelque chose qui nous fasse partir un petit peu pour la semaine à venir.
C'est vrai.
Voilà. Et donc je mettrais quelque chose d'assez généreux. Alors d'abord un œuf. Je conçois pas trop la galette sans œuf. Donc on met d'abord l'œuf à cuire gentiment. On étale un peu le blanc. pour que ça voilà, ça soit pas trop baveux. Ensuite, je mettrai des petits champignons qu'on aurait préparés au préalable.
Qu'on a fait pré-cuire. Hein.
Qu'on a fait pré-cuire avec peut-être un peu d'ail, par exemple, et un peu de persil. Alors, on met les champignons, on les dispose. On n'oublie pas un bon fromage. Alors, pourquoi
sur une pâte molle, on est sur une...
Plutôt une pâte molle. Après, avec un peu plus de fantaisie, on peut tenter le bleu, par exemple. Ouais. Ou la forme d'Ambert, plus doux, plus de douceur. Peut-être plus crémeux, la forme d'Ambert, qui peut être intéressant. Champignons, aillés, forme d'Ambert, intéressant. Et puis, un bel œuf. Alors, si, petite technique que je tiens de mon père, qui l'a lui-même apprise de sa grand-mère, qui cuisine des galettes. Et alors, la petite technique, c'est que sur le jaune d'œuf, il reste toujours une petite pellicule qu'on ne voit pas forcément, un peu, justement, baveuse. Si on n'aime pas trop la bave, il y a un petit geste très technique avec la spatule en bois pour enlever cette petite couche.
Là, tu fais le geste, mais les gens feront qui. Enfin, il va falloir l'imaginer, ce geste qu'on peut pas.
C'est un coup de poignet. Voilà, on fait un petit coup de poignet vers l'extérieur.
Ah oui, sacré coup de poignet, effectivement. Bruno, on continue avec DMT
oui,
dans 10 secondes.
Est-ce que tu peux juste les avoir? Elle est en train de passer là, actuellement. Est-ce que tu peux les appeler?
Qu'on
les ait tout de suite.
Oh là là. Attends, on envoie le jingle et puis on les appelle.
Ok.
101.5 FM.
Allô, vous êtes là?
Oui, bien sûr.
Alors, vas-y.